Troisième partie, la marche avec Christ. Voici venue maintenant la phase la plus mal connue du public. C'est par manque de connaissance que des multitudes ne se convertissent pas. Les gens s'imaginent que la vie chrétienne est synonyme de perte de liberté, de tristesse et de contrainte, et l'immense majorité ne sait tout simplement pas qu'il est possible de connaître Dieu personnellement. C'est pourquoi la valeur et la beauté de votre marche avec Christ doivent être annoncées. Verset 17. Je retournai à Jérusalem, et comme je priais dans le temple, j'eus une vision. Verset 18. Je vis le Seigneur qui me dit, « Hâte-toi, sors vite de Jérusalem, car ses habitants n'accepteront pas ce que tu affirmes à mon sujet. » Paul évite à nouveau deux pièges. Celui de conclure par quelques phrases pieuses et celui d'arrêter là son témoignage en estimant que ce qui devait être dit l'a été. Non, la vie chrétienne comporte des actes. Il retourne à Jérusalem. Le temple est l'endroit consacré depuis des centaines d'années à la prière, le lieu saint que Dieu habite. C'est là qu'il rencontre les hommes. Et voici que Paul déclare que Jésus y est présent. Il faut un courage certain pour oser ce genre d'affirmation. Paul le fait au péril de sa vie, et il le sait. Son auditoire se reconnaît certainement dans l'avertissement du Seigneur. Comment vos parents, amis, voisins ou collègues ont-ils réagi à vos premiers pas en Christ? Il se peut que le fond des cœurs soit mis en lumière quand vous en parlerez ouvertement. Verset 19. Je répondis, « Seigneur, ils savent bien que j'allais dans les synagogues et que je mettais en prison et faisais battre ceux qui croient en toi. » Paul conserve peut-être l'espoir qu'un exemple tel que le sien va faire réfléchir ceux qui lui ressemblent, comme quand aujourd'hui Nicky Cruz s'adresse au gang, l'acteur Pat Boone aux artistes ou la tête Carl Lewis à ses pairs. Ce dialogue est la meilleure preuve que la vie chrétienne est une relation vivante et personnelle avec Dieu. Paul démontre que la prière est bien plus qu'un monologue rituel et vide. La spontanéité de sa confession en dit long sur le pardon total et libérateur qu'il a reçu de Jésus. Supériorité de la vie sur la lettre, de l'amour sur la crainte, de la miséricorde sur la justice. Le contraste entre le fanatisme religieux et la marche avec Christ est très fort. Verset 20. Et lorsqu'on mit à mort Étienne, ton témoin, j'étais là, moi aussi. J'ai approuvé ceux qui le tuaient et j'ai gardé leurs vêtements. En quelques phrases, Paul va faire une démonstration étonnante de toutes les richesses incluses dans une vraie conversion. Mes terribles fautes ont été entièrement pardonnées. Dans cette nouvelle relation, Dieu me communique ses conseils, pleins de sagesse. Il m'a donné une nouvelle vocation. Je t'enverrai vers les nations. Quels sont les événements capitaux qui démontrent votre nouvelle naissance? Verset 21. Le Seigneur me dit alors, « Va, car je t'enverrai au loin vers ceux qui ne sont pas juifs. » Le Sauveur comprend certainement le désir de Paul de toucher ses compatriotes, mais il connaît à la fois la dureté de son peuple et le besoin immense de toutes les nations. C'est pourquoi le Dieu d'Israël, qui a tant aimé le monde, envoie son nouveau serviteur vers les païens. Que faites-vous aujourd'hui qui vous paraissait inimaginable avant que Christ n'intervienne? Réflexion. Devant la démonstration que l'apôtre vient de faire, soit on tombe la face contre terre pour se repentir, soit on s'endurcit davantage et on utilise n'importe quel moyen pour faire taire l'homme qui démolit pierre par pierre le mur philosophique et religieux derrière lequel on se cache. La foule présente choisit la deuxième solution en hurlant, en lançant de la poussière en l'air, et en réclamant la mort de Paul à corps et à cri. Son témoignage est comme une explosion de vérité que l'enfer et les cœurs tortueux ne peuvent supporter. Mais la semence a été jetée. L'éternité révélera combien de saules, dans cette cohue, sont devenus des pôles, vivant témoignage d'un Dieu qui aime le pécheur, qui pardonne et le transforme. Paul ayant été interrompu dans son discours, il est difficile d'évaluer le temps qu'aurait pu prendre cette dernière partie. Une chose est certaine, elle est aussi longue que la description de sa vie sans Christ. Aujourd'hui, plus de la moitié des témoignages omettent de décrire la vie chrétienne, alors que c'est précisément cela qui est important. Comment les païens auront-ils envie d'une vie qu'ils ignorent? Comment achèteront-ils le champ si vous ne leur montrez pas le trésor caché selon la parole de Jésus? Comment chercheront-ils à prier si personne ne témoigne d'un exaucement? Il nous faut résolument changer notre conception du témoignage. Il ne s'arrête pas à la conversion. Mise en pratique. Votre marche avec Christ. Je vous invite à répondre soigneusement aux questions suivantes en employant les mots que vous utiliseriez en parlant avec votre voisin de palier ou avec le facteur. Comment mes parents, amis, voisins ou collègues ont-ils réagi suite à ma conversion? Quels sont les événements capitaux qui démontrent ma nouvelle naissance? Quelles sont les valeurs nouvelles qui me marquent le plus? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me paraissait inimaginable avant que Christ n'intervienne? Relation. Que représente Dieu pour moi au quotidien? Quels sont les exaucements spécifiques qui ont marqué ma vie? De quelle passion Christ m'a-t-il libéré? Comment est-ce que je vis les temps de crise? Quelles sont mes certitudes et espérances? Comment est ma vie familiale depuis que Christ la dirige? Direction, sagesse. Pourquoi est-ce que je lis la Bible? Comment dirige-t-elle mon existence? Quels ont été les principaux changements sur le plan professionnel? Quels ont été les principaux changements sur le plan financier? Quels ont été les principaux changements sur le plan sexuel, relationnel? Quels ont été les principaux changements dans le choix de mes divertissements? Vocation. Comment est-ce que je sers Dieu? En quoi ma vision du monde a-t-elle changé? Quelles ont été les étapes marquantes de ma vie en Christ? Quels sont les buts concrets que Dieu m'a donnés pour ma vie entière? Autres caractéristiques? Autocorrection. Repérez maintenant dans toutes vos réponses et notes les mots dont le sens serait trop général. Soulignez-les et remplacez-les par des termes précis. Repérez également tous les mots et toutes les expressions incompréhensibles pour des non-chrétiens. Soulignez-les et replacez-les de manière adéquate. Composition. Faites une sélection des faits qui forment le panorama de votre vie actuelle en indiquant une ou deux étapes clés de cette démarche. Respectez l'ordre chronologique de la découverte de cette vie nouvelle. Faites vivre aux autres votre émerveillement. Restez profondément humain dans votre récit. Ne soyez pas fier de vous, mais montrez que vous êtes fier de Christ. Démontrez qu'il est admirable en relatant son œuvre en vous. Conclusion. En rassemblant les trois parties composition de votre travail, vous obtiendrez la colonne vertébrale de votre témoignage de conversion. Ne laissez pas la poussière le recouvrir, mais demandez à Dieu des occasions de le partager. Imaginez que tous les chrétiens, de manière spontanée et naturelle, se mettent à témoigner dans le bus, à l'hôpital, au supermarché, aux pompistes et aux voisins. Les conversions deviendraient aussi naturelles dans votre ville que les naissances et les mariages. N'attendons pas que les autres s'y mettent. Montrons l'exemple et mettons-nous à l'œuvre. Le Saint-Esprit nous inspirera beaucoup de variantes, mais il ne fait pas le travail à notre place. Il réalise l'impossible si nous faisons le possible. Paul utilise 45 fois le mot « je »,« me » et « moi ». Je vous invite à les souligner dans votre Bible. Puisse le Saint-Esprit convaincre chacun que rendre témoignage, ce n'est pas parler du voisin ou du pasteur, mais de soi-même. Ce n'est pas expliquer, mais témoigner de faits irréfutables. Combien de temps un témoignage doit-il durer? Celui de Paul a probablement duré moins de 3 minutes. Cela est une bonne moyenne. Il faut à tout prix éviter de lasser nos auditeurs. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité qui détermine un bon témoignage. Souvenons-nous que tout ce que Dieu dit est intéressant. Si nous parlons sous l'inspiration de l'Esprit, nos paroles auront de la saveur. L'important est de savoir s'arrêter à temps. Pour avoir une idée concrète de la durée d'un témoignage, voici 4 situations typiques. 1. Vous témoignez à un ami. Ne faites pas de longues tirades, mais laissez-le s'exprimer chaque fois qu'il le désire. 2. Vous vous retrouvez en groupe, une dizaine ou plus vont s'exprimer. Il y a parmi vous des non-chrétiens. Ne prenez pas plus d'une minute chacun, moins si possible. Un exemple probant de cela nous est présenté à la fin du film « L'insaisissable » de l'association Billy Graham. Nous voyons là quelques centaines de jeunes rassemblés sur une colline. Plusieurs d'entre eux se lèvent spontanément et disent en quelques phrases ce que Christ a fait pour eux. L'effet produit par cette gerbe de témoignages est extraordinaire. 3. Vous animez une soirée d'évangélisation où une ou deux personnes témoignent avant le message. Donnez un témoignage classique de 3 minutes ou faites-vous interviewer pour donner plus de contraste et de spontanéité à vos paroles. 4. Vous avez été invité spécialement pour rendre témoignage. Dans ce cas, vous avez une place clé dans le programme. Renseignez-vous auparavant sur le temps qui vous est imparti. 10, 15, 20 minutes. Vous vous serez préparé dans la prière et aurez noté, à partir de la banque de données ci-dessus, les points que le Saint-Esprit vous demande de relever. Vous aurez ainsi sous vos yeux, le moment venu, des lignes directrices sur lesquelles vous appuyez. Sans vous perdre dans des détails monotones, faites de gros plans sur les faits marquants. Soyez résolument naturel et ne remplissez pas à tout prix le temps. Pour conclure cet exposé, je vous laisse apprécier la fraîcheur du témoignage d'une jeune fille reçue par écrit quelque temps après sa conversion, légèrement complétée par la suite.
Ma mère est partie lorsque j'avais 4 ans. Ma grand-mère, puis mon père, me prirent en charge jusqu'à mes 10 ans. Ensuite, jusqu'à l'âge de 16 ans, ce furent ma mère et ma grand-mère. On me disait ouvertement que j'étais de trop comme un fardeau. Il régnait chez nous une ambiance de critique, de violence, d'amertume et d'humiliation, en particulier quand mon père me déshabillait devant les autres pour me corriger. Je lui faisais honte parce que je m'étais fait des amis parmi les étrangers, les infirmes et les mongoliens. Je lui rappelais aussi ma mère, ce qui lui était insupportable. De manière naturelle, j'étais douce, consciencieuse, je rendais volontiers service. Je croyais fermement en Dieu depuis toujours, sans qu'on m'en parle. Mais chez nous, Dieu n'existait pas. À la suite d'un enseignement sur la théorie de l'évolution, un grand sentiment d'insécurité s'est installé en moi. Des doutes, des tourments, puis le désespoir m'ont envahi, ainsi que la peur de la mort, celle de découvrir que peut-être, finalement, Dieu n'existait pas. Que me restait-il, puisque personne ne m'aimait? J'ai commencé à être grossière, rancunière, haineuse, à mentir et à avoir des pensées de vengeance envers ma mère et mon père. Travailler, souffrir et mourir dans un monde de guerre, de famine, de torture et de pollution, seul devant la souffrance du monde, j'ai été tenté de tout lâcher. Je devenais de plus en plus angoissé. Le diable resserrait son étau sur moi, idolâtrie, débauche. À 23 ans, je suis entré en clinique psychiatrique. La meilleure étape, ce fut là, à l'écart de la ville, de la froideur des gens, du bruit, de tout ce qui me désespérait. C'est là que j'ai décidé de chercher Dieu jusqu'au bout ou de me suicider si j'arrivais à la certitude de son inexistence. Pendant 2 ans, je l'ai cherché en allant dans toutes sortes de groupes prétendant avoir la vérité. Méditation, télépathie, consultation. Au beau milieu d'une méditation nommée « Ribert », où je recherchais mes vies antérieures, Dieu m'a soudainement convaincu que tout cela n'était que vision mensongère et tromperie. Je me suis levée aussitôt et ai affirmé à mon éducatrice qu'il n'y avait pas de vie antérieure. Elle en est restée bouche bée. Juste à cette période, Dieu m'a fait rencontrer une jeune infirmière chrétienne. Son attitude m'a bouleversée. Elle aimait chacun sans préférence et une grande paix était en elle. J'étais tout à la fois attiré par elle et rempli de haine à son égard. Les esprits mauvais qui habitaient en moi me poussaient à la haïr, à vouloir la frapper, lui cracher à la figure ou fuir devant la lumière et l'autorité que je voyais en elle. Finalement, je lui ai demandé comment rencontrer Dieu. Demande-le-lui, il va te répondre. Je suis parti me promener. Avec toutes les théories entendues, j'avais besoin que Dieu se révèle lui-même, clairement, à moi. Pas question de me tromper, c'était une question de vie ou de mort. Et là, dans la nature, Dieu m'a rempli de sa présence. C'était doux et fort, comme un baume sur une plaie. Là, il m'a convaincu que la Bible est bien inspirée par lui, qu'elle est la vérité. Dans la rue, il y avait des affiches. Nicky Cruz, que je ne connaissais pas, parlerait à la cathédrale de Lausanne. J'étais convaincue que Jésus serait présent là-bas. J'étais prête à lui donner ma vie au cours de la soirée. C'est alors que j'ai eu une vision de la croix vide, certitude de la résurrection, avec, inscrit en grand dans le ciel, le mot « amour ». Des larmes de joie ont coulé de mes yeux, et la haine envers ma famille est tombée. Je suis rentrée chez moi et j'ai donné des choses à brûler au pasteur, telles que livres de zen, astrologie, Bouddha, photos de mon idole Diane Dufresne, etc. C'était le samedi 15 mai 1982. J'ai dormi comme jamais je ne l'avais pu depuis des années. Toute ma vie a changé. Je ne peux tout raconter car je ne cesse d'être transformée. Je n'arrive plus à mentir, je n'ai plus d'angoisse. Je dors profondément, mon idole n'existe plus. J'ai aussi quitté mes anciennes relations, les plaisanteries sexuelles me laissent indifférente. J'ai du travail et du plaisir à le faire, j'arrive à l'heure. Je me lave, je fumais 3 paquets de cigarettes par jour, du jour au lendemain, je n'en ai fumé qu'un demi. Progressivement, Jésus m'a libéré de cette habitude et m'a guéri. Mes yeux sont devenus calmes, la folie de style paranoïaque et suicidaire s'en est allée. Plus de désespoir, de solitude, et, en plus, j'ai reçu la guérison instantanée d'un virus qu'aucun médecin n'avait pu éliminer et qui me clouait au lit avec beaucoup de fièvre tous les 15 jours pendant 2 à 3 jours. J'ai une énergie formidable qui me dynamise pour dire sans crainte et avec joie à mes anciennes relations ce que Jésus a fait pour moi. Le 17 mai, sur mon lieu de travail, j'ai chanté et annoncé par ce moyen ma conversion. Maintenant je lis et prie souvent, je vois Dieu intervenir très précisément dans ma vie plusieurs fois par semaine. Je ne comprenais pas la Bible, mais à présent la lumière se fait. Dieu m'apprend à le connaître, à le suivre. Il me redonne confiance même pour les questions d'argent. Le matin et le soir, je prie, je lis et je place ma vie sous le regard de Jésus. Dieu m'encourage et me bénit. J'ai une relation avec lui toujours plus profonde. Je suis heureuse et désormais j'aime ma famille.
Nous avons analysé ensemble les principes fondamentaux du témoignage de conversion. Il est certain qu'il existe des possibilités presque infinies d'autres témoignages. Celui d'une réconciliation, d'un miracle, d'une réponse, d'une coïncidence divinement arrangée. L'Écriture restera notre modèle, car elle est tout entière un témoignage de l'amour de Dieu.